Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Farwell, l'histoire d'espionnage la plus retentissante de l'après-guerre, rien de moins. Une histoire dont la plus grande vertu est peut-être de nous rappeler à quel point la réalité a souvent plus d'imagination que la fiction. Et n'en déplaise à John le Carré, le grand spécialiste du roman d'espionnage de la guerre froide. Car notre histoire se déroule précisément au cœur de cette période, la guerre froide, qui s'étend de la fin de la Deuxième Guerre jusqu'à la chute du mur de Berlin en novembre 89. Certes, c'est un dossier qui concerne d'abord les États-Unis et l'Union soviétique, mais il se trouve que la France se retrouve aux premières loges. Il s'agit même de la plus grande réussite du contre-espionnage français depuis 1945 et d'un sacré cadeau pour le président Mitterrand, qui devient l'un des personnages centraux de cette affaire, car elle lui permet, lui, le président socialiste, qui gouverne avec les communistes, de se montrer fréquentable aux yeux de Washington. Mieux, un allié solide, loyal, même si sur le coup, le président Reagan se méfie des révélations de son homologue français. Notre invité aujourd'hui pour un nouveau regard sur cette histoire que nous vous avons déjà racontée, Jacky Demain, ancien sous-directeur du contre-espionnage à la DST pendant 9 ans, il a travaillé sur cette affaire Farwell. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius, Koyen Guyenne et Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
J'ai tout de suite vu que c'était une affaire énorme, la plus grande émotion de ma carrière, en tout état de cause.
À la sortie du premier rendez-vous, j'ai cru qu'on entrait dans un roman policier.
Si nous avions eu le choix d'une source...
Alors, il me présente un premier document.
Au cœur du dispositif soviétique le plus sensible pour la défense de l'Ouest...
Le gros document, j'ai été très surpris, parce que justement, il était même signé de M. Andropov, directeur du KGB.
Si nous avions eu le choix d'une source, nous aurions voulu qu'elle soit précisément à l'endroit où se trouvait Farwell.
La politique de la France est celle de la France et restera celle de la France.
47 soviétiques, diplomates pour la plupart, ont été expulsés de France cet après-midi.
Mais la France est un allié loyal et fidèle des États-Unis d'Amérique. Nous avions donc beaucoup de choses à nous dire sur ce point.
Farwell, c'est un nom code. L'homme dont nous parlons, le personnage principal de cette histoire, s'appelle en vérité Vladimir Petrov. C'est un officier du KGB, mais pas n'importe lequel, pas un soutier, non. C'est un agent qui travaille au cœur de la puissante agence d'espionnage et de contre-espionnage soviétique. Un homme qui a accès aux renseignements les plus importants. Pensez donc, cet officier, il est lieutenant-colonel, connaît comme sa poche l'ensemble du dispositif soviétique d'espionnage dans le monde occidental. Et il va devenir la source des services secrets français, auxquels, spontanément, il va livrer tous les secrets, tous les rouages du KGB et de ses honorables correspondants en Europe et aux États-Unis, vertigineux. Avec cette trahison de haut vol, il va rendre son pays, l'Union soviétique, comme un corps sans défense immunitaire, et pire encore, comme un corps malade qui ne le sait pas, qui ignore qu'il porte en lui un virus mortel qui va l'exposer mortellement. Avec l'œuvre de Petrov, l'URSS est rongée de l'intérieur. Pour Moscou, c'est une véritable catastrophe, mais pour les services français et pour le président Mitterrand, c'est le coup du siècle. Ainsi, pendant près d'un an, Petrov va faire passer à l'Ouest la bagatelle de 3000 documents secrets, grâce à la fameuse valise diplomatique qui traverse le rideau de fer aussi facilement que le nuage de Tchernobyl traversera les frontières de l'Europe pour nous envoyer ses radionucléides. Et pour que le tableau soit complet, Petrov fournit aussi la liste des agents du KGB en poste dans les pays occidentaux, la fameuse ligne X, le MUST. Il fournit également des centaines et des centaines de bobines, de microfilms sur lesquels les documents les plus sensibles liés à l'espionnage industriel réalisé par les soviétiques sont enregistrés. C'est simple, dans ce que la source Farwell fournit, il y a tout, absolument tout, de ce que l'Union soviétique espionne à travers le monde. Des moteurs des fusées Ariane jusqu'au système de radars américains, en passant par les trains d'atterrissage d'avions de combat britanniques. Avec Farwell, le camp de l'Ouest a désormais un atout considérable dans son jeu. Et comme dans un bon polar, la suite de cette aventure nous réserve encore bien d'autres surprises. Juillet 1981, sommet du G7 à Ottawa. Autour de la table et parmi les chefs d'État des pays les plus industrialisés, il y a François Mitterrand, la curiosité de cette réunion, car il vient d'être élu en France. C'est son baptême du feu sur la scène internationale. Quelques jours plus tôt, il a reçu à Paris le vice-président américain, George Bush, avec qui le dialogue a été très vif sur la question de l'entrée de 4 ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Les Américains voient cela d'un très mauvais œil. Mais François Mitterrand apaise son visiteur américain et lui dit en substance « Bon, des communistes au gouvernement, pas de problème, ils ne sont là que pour la galerie, c'est un accord électoral, monsieur le vice-président. » François Mitterrand rassure, George Bush apprécie.
Nous avons parlé à fond de nombreuses questions. La politique de la France est celle de la France et restera celle de la France. Mais la France est un allié loyal et fidèle des États-Unis d'Amérique. Nous avions donc beaucoup de choses à nous dire sur ce point.
Our European allies are sovereign.
Nos alliés européens sont des nations souveraines.
Nations and the decision on how they are governed rests with their citizens and with their elected representatives.
Ce sont donc leurs citoyens et leurs représentants élus qui décident comment ils sont gouvernés.
However, the position of the United States on the subject of communist participation in the governments of our allies.
Toutefois,
is well known.
La position américaine sur la question de la participation des communistes dans les gouvernements de nos alliés est bien connue.
Quelques jours plus tard, le 14 juillet, lors de la traditionnelle garden party à l'Élysée, le directeur de la DST, Marcel Chalet, demande à François Mitterrand un entretien. Ce qu'il a à lui dire est de la plus haute importance. De fait, il lui explique que les Français ont désormais une taupe infiltrée dans les hautes sphères du KGB, une source d'informations incroyablement riche, une source qui leur a déjà transmis des documents exceptionnels sur l'espionnage soviétique. Extrait du film de Christian Carion, l'affaire Farwell.
Quel est le niveau de la source ?
Niveau 1.
Nous pensons que la source va continuer à émettre. Nous avons mis en place une cellule au sein de la DST.
Pourquoi la DST traite-t-elle cette affaire ?
La source fut en poste ici à Paris de 1965 à 1970. Et c'est à cette époque que nous l'avons approché. Et il nous a envoyé un signal il y a 3 mois. Et si cette affaire est confiée à nos collègues habilités à opérer à l'étranger, nous perdrons le contact. Les services extérieurs d'espionnage sont infiltrés par le KGB. Les Russes n'ont pas noyauté la DST parce que ça leur paraissait inutile. Nous n'avons pas à intervenir en dehors du territoire national.
Heureux de vous l'entendre dire, monsieur le directeur. Non, vous allez continuer à suivre cette affaire en m'en rendant compte personnellement. Car je vous rejoins sur un point, moins j'en saurons, mieux cela vaudra. Je vous couvrirai tant que je pourrai compter sur votre loyauté à mon égard.
Monsieur le Président, j'ai consacré ma vie à la défense des intérêts de la France.
Vous pouvez disposer, monsieur le directeur.
C'est long.
Qu'est-ce qui est inscrit en haut du document ?
J'ai donné un nom de code à la source, Farwell.
Ce qui veut dire adieu.
Et pourquoi pas adieu en français ?
Tous les Russes entendront parler de Farwell et penseront c'est IA, ça nous permettra de gagner un peu de temps.
Nom de code de la source, Farwell. Mission, copier et transmettre tous les documents qui sont en sa possession pour que la DST puisse les étudier. Pour François Mitterrand, cette nouvelle, c'est évidemment du pain béni avant de rencontrer Ronald Reagan à Ottawa. C'est un cadeau de la Providence.
La politique de la France est celle de la France et restera celle de la France. Mais la France est un allié loyal et fidèle des États-Unis d'Amérique.
Ottawa, après 48 heures d'un programme chargé, notamment autour de la question de la relance des économies et du commerce international, on s'achemine vers la fin des discussions du groupe des 7. Avant le dernier dîner de clôture, le président français et son homologue américain se retrouvent pour une entrevue à l'écart. Étonnant face à face entre un président français de gauche, qui parle comme un livre, et un président américain conservateur dont on dit qu'il ne lit pas un livre, ce qui est faux d'ailleurs. Pour la presse, l'image est saisissante, mais ce qu'il y a derrière l'image l'est encore plus. Et là, il n'y a pas de son. Et pour cause, le sujet est top secret. Et puis, comme on ne vient pas les mains vides à celui qui veut repartir les poches pleines, François Mitterrand abat son atout maître, Farwell.
Notre service de contre-espionnage a intercepté une source de première main, un agent russe de très haut rang, qui peut avoir accès à l'intégralité des dossiers du KGB. Cette source est en lien avec les services français de la DST, et selon les premiers éléments dont nous disposons, ça prouve que votre pays est pillé de l'intérieur par les espions communistes. Je vous ferai parvenir dans quelques jours les premiers documents qui vous permettront de prendre la mesure de tout ça et d'en juger par vous-même. Malgré nos différences, la France et son peuple sont toujours vos alliés dans la bataille contre les régimes de la terreur.
Si Ronald Reagan reste d'abord sceptique face à de telles révélations, la venue à Washington dans les jours qui suivent du directeur de la DST, Marcel Chalet, lui apportera la preuve qu'il peut faire confiance à François Mitterrand. C'est que Marcel Chalet a rapporté une mallette remplie de documents fournis par le dénommé Farwell. Et là, ça change tout. Quelle stupeur pour les Américains de découvrir que les Soviétiques ont en leur possession les plans des moteurs de leur fusée Saturn V, la grosse fusée qui a envoyé les hommes sur la Lune, qu'ils ont aussi les secrets de fabrication de leur navette spatiale, de leurs chasseurs de combat Tornado et même les plans du système radar qui protège les États-Unis. Dès lors, la relation américano-française n'est plus la même. Des divergences politiques, bien sûr, mais beaucoup de confiance. Et dès lors, Ronald Reagan va durcir sa politique contre l'URSS et accepter volontiers de travailler avec un président français socialiste. Reste à savoir qui est cette mystérieuse source, Farwell. Farwell, de son vrai nom Vladimir Hippolytovitch Vetrov. C'est donc un agent du KGB qui travaille dans une section très sensible de l'agence de renseignement soviétique, le 4e bureau de la division T, à la direction principale du KGB à Moscou. Division T, autrement dit la division chargée de l'intelligence technologique, comprenez ici, en charge de l'espionnage industriel. Il faut rappeler que dans cette course aux armements que se livrent les deux blocs depuis 35 ans, les Soviétiques comblent leur retard en pillant les découvertes et avancées technologiques réalisées de l'autre côté, à l'ouest. Mais avant les révélations de Farwell, on en était loin d'imaginer à quel point, quelle ampleur. Face à la caméra d'Hervé Brusini et de Dominique Thiers, c'est Xavier Hamel, un industriel qui, on va le voir, deviendra le contact de Farwell pour la DST, qui raconte la nature et l'ampleur des documents qu'il a reçus des mains de l'agent Vetrov.
Alors, il me présente un premier document qui était écrit en français ou en anglais, je ne me souviens plus, mais pas en russe, parce que je ne peux pas lire l'écriture manuscrite en russe. Je ne peux lire que l'imprimerie.
Donc, à l'issue de la première rencontre, il vous fixe le prochain rendez-vous.
Oui, c'est ça.
Dans le parc Borodino.
C'est ça.
Vous étiez surpris au fur et à mesure de vos rencontres, de ce qu'on vous donnait ?
Le gros document, j'ai été très surpris. Parce que justement, il était annoté, il était même signé de M. Andropov, directeur du KGB.
C'était quoi ce gros document, monsieur ?
C'était la liste de toutes les pièces détachées et de tous les endroits où l'on pouvait obtenir des renseignements, que ce soit en France, en Amérique et en Allemagne et en Angleterre. En particulier, il y avait tous les plans du Tornado, ce qui a obligé d'ailleurs les Britanniques à refaire complètement l'avion.
Vladimir Vetrov, Farwell donc, est en effet chargé d'inventorier et de superviser toutes les données de ce que les espions soviétiques ont pu glaner à l'ouest. Mieux encore, il voit passer devant lui les bordereaux de commande de ce que les grands groupes industriels du pacte de Varsovie cherchent à obtenir à l'ouest. Il sait donc ce que les soviétiques ont espionné et ce qu'ils prévoient d'espionner. Comme le confiera l'ancien bras droit du directeur de la DST, Raymond Nard, bien plus tard, Farwell s'était inespéré.
J'ai tout de suite vu que c'était une affaire énorme, la plus grande émotion de ma carrière, en tout état de cause. Si nous avions eu le choix d'une source au cœur du dispositif soviétique le plus sensible, le plus dangereux pour la défense de l'Ouest, nous aurions voulu qu'elle soit précisément à l'endroit où se trouvait Farwell. J'ai compris qu'il fallait en parler immédiatement aux plus hautes autorités de l'État. Mais en même temps, j'ai pensé que, comme nous étions en pleine campagne présidentielle, il fallait attendre le résultat de cette élection pour savoir à qui le dire.
Lors d'une rencontre entre services secrets français et américains, en présence des présidents des deux pays, le directeur de la DST, Marcel Chalet, donne un aperçu du système. Extrait du film de Christian Carion, l'affaire Farwell.
May I take this opportunity to thank again the CIA in the person of the director, Mr. Finney.
Je profite de l'opportunité pour remercier encore la CIA et le directeur de la CIA, Mr. Finney,
for the precious collaboration we are starting now.
Pour leur précieuse collaboration.
If you don't mind, Mr. President, I'm going to speak French.
Si vous ne m'en voulez pas, Monsieur le Président, j'aimerais continuer en français.
Grâce à la dernière livraison de Farwell, il nous est possible aujourd'hui de comprendre
l'organisation globale de l'espionnage soviétique. Le KGB n'est pas le seul qui nous espionne. Toutes les entreprises à l'Est, les académies des sciences, et même les plus modestes participants à des foires commerciales sont impliqués. Et tous ces réseaux envoient régulièrement des informations qui sont centralisées, analysées et digérées par un organe que nous ne connaissions pas encore, le VPK. VPK.
How many agents work for this service?
Combien d'agents travaillent pour ce service?
And who's in charge of it and since when?
Et qui est en charge et depuis quand?
Je n'ai pas à ma disposition les informations fiables me permettant de vous répondre.
A long time ago, we too heard of the VPK.
Il y a bien longtemps, on a déjà eu vent du VPK.
That thing is the Loch Ness Monster.
Laissez-moi vous dire que c'est un serpent de mer.
Oui, enfin, c'est sans doute la raison pour laquelle vous aviez décidé de ne jamais nous en parler.
Bon, continuez, monsieur le directeur.
Alors, nous avons calculé que les Russes dépensent davantage pour l'espionnage industriel que pour leurs propres recherches. Ils ne veulent pas simplement prendre le risque de chercher, ils veulent aussi et surtout acheter l'assurance de trouver. Et ça leur coûte très cher. Le pillage représente plus de 40% de leur budget global dans la course aux armements.
Eh bien.
Well, that's incredible.
Ça dépasse ce que j'imaginais.
Are you sure of it?
Êtes-vous sûr de ce que vous avancez?
40%.
40%.
Can you imagine the sums at stake?
Vous imaginez ce que ça représente?
It didn't make any sense.
Ça n'a pas de sens.
To feed the enemy good information to hook them and then dish out a lot of baloney.
Nourrir l'ennemi avec des informations pour les emmener fouiner ailleurs et leur faire perdre du temps, c'est une vieille tactique. That, right? Mais vous le savez, n'est-ce pas?
Absolutely.
Absolument.
But Farwell is the finest source of all times, Mr. President.
Mais Farwell, je vous l'assure, est la meilleure source de tous les temps, Monsieur le Président.
VPK, tête de pont de l'espionnage soviétique, une commission spéciale en lien direct avec le Kremlin qui décline en plan quinquennaux ou annuel les besoins de l'appareil militaro-industriel soviétique et qui intègre ce qui a été collecté à l'étranger. Pour l'Ouest, tout devient maintenant beaucoup plus clair sur le jeu de l'Est. Maintenant, pourquoi Vetrov, alias Farwell, décide-t-il de trahir son pays? Premier fils d'une famille modeste, ses parents ne font pas partie de l'élite soviétique, la nomenklatura. Pourtant, malgré ses origines, il réussit une brillante carrière. Il est ingénieur, spécialisé dans les puces électroniques, et c'est aussi un athlète de haut niveau, bref, un profil de soviétique modèle. Mais il n'obtient qu'un simple poste dans une entreprise de machines à calculer. Il est déçu, amer.
C'était pas un poste intéressant. À la sortie de l'école, des nuls avaient obtenu les bonnes places parce que leurs parents avaient des relations. Ça m'avait choqué, mais bon. À l'époque, je croyais au communisme. Alors, quand le KGB a lancé une campagne de recrutement, j'ai pas hésité. Faire du renseignement, je trouvais ça excitant. Aller dans des pays capitalistes, chez le diable, on en rêvait tous. Et puis, le KGB, c'était l'élite.
Vladimir Vetrov intègre donc le KGB et il se montre assez doué pour le renseignement. D'ailleurs, il est vite envoyé sur un terrain qu'il aime, il a envie d'y aller. Paris, oui, Paris. C'est à partir de 1965. Il y restera 5 ans en compagnie de sa femme et de son fils, ses plus belles années. Il est ingénieur à la mission commerciale du RSS. La DST fiche Vladimir Vetrov comme un agent probable de l'Est. Il faut dire qu'à cette époque, tous les Russes de la délégation soviétique sont suspects. Comme ça, c'est réglé. Avec sa femme, Svetlana, ils vivent la grande vie et goûtent au plaisir de la liberté. Vladimir Vetrov se rapproche alors de l'un de ses partenaires de travail, un dénommé Jacques Prévost, qui travaille chez Thomson CSF et qui connaît bien l'URSS. Très vite, les deux hommes partagent des intérêts qui dépassent le simple cadre professionnel. Un soir, alors qu'il rentre ivre au volant de la voiture du corps diplomatique, Vladimir Vetrov est victime d'un accident. Il percute un réverbère sur le pont des Invalides et endommage gravement son véhicule. Celui qu'il réveille en pleine nuit pour lui demander de l'aide n'est autre que Jacques Prévost.
Je saute de ma voiture.
voiture, je me précipite et je trouve Vetrov pleurnichant à côté.
Il fallait la rendre à l'ambassade en bon état. S'il ne le faisait pas, c'était non seulement sa carrière qui était en cause, mais peut-être même sa vie. Hein? Il aurait pu être envoyé au goulag ou je ne sais où. Enfin, c'était fini pour lui.
Bon, alors, j'ai pu me débrouiller pour faire réparer la voiture.
Près de la compagnie, bien sûr. Ça a coûté une petite fortune, mais il a récupéré sa voiture en 48 heures, apparemment remise en état. Deux jours après, il est venu à mon bureau pour me dire « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, t'as sauvé ma carrière. Je te jure qu'un jour ou l'autre, je te revaudrai ça. »
Pour moi, c'était parole en l'air.
En fait, tout est parti de là.
De cet épisode naît une relation de confiance entre les deux hommes. Quelque temps plus tard, c'est la tuile, la mauvaise nouvelle pour Vladimir Vetrov. Lui, l'amoureux de la France, est rappelé à Moscou. Nous sommes en 1970. Vetrov vit très mal ce retour en terre soviétique. Fini les sorties avec les amis français, les dîners au restaurant, les balades en toute quiétude, la nuit sur les bords de Seine. Désormais, il se sait condamné à végéter dans le système soviétique gris et poussiéreux. On l'enverra tout de même au Canada pour 9 mois, mais Vladimir Vetrov semble avoir perdu la foi dans le métier d'espion, car il reste profondément attaché aux doctrines du communisme. Qui plus est, c'est un nationaliste convaincu qui déplore que son pays aille pirater chez les autres ce que les savants et scientifiques soviétiques pourraient très bien découvrir par eux-mêmes. Pour lui, c'est un signe de faiblesse qui n'est pas à l'image des valeurs du socialisme dans lesquelles il croit. Pour un espion, on fait mieux, hein, pas vraiment l'esprit. Cette analyse, en tout cas, c'est celle de l'ancien directeur de la DST, Marcel Chalet.
L'argent n'a joué pratiquement aucun rôle dans cette affaire. Nous avons dépensé en tout, et pas seulement pour faire de menus cadeaux à Farewell dans le cadre de ses besoins de la vie quotidienne, moins de 100 000 francs pour l'ensemble de la manipulation de cette source. Par conséquent, l'argent ne jouait aucun rôle, et d'ailleurs, c'était parfaitement compréhensible compte tenu des motivations dont il faisait lui-même état, de façon répétée. Il se présentait comme un adversaire du système soviétique tel qu'il le vivait à l'intérieur de son service. C'était un homme qui dénonçait le comportement d'une hiérarchie pesante, quelquefois stupide, la jalousie entre les cadres, le népotisme, tout un tas de comportements qui lui paraissaient relever d'une société archaïque et totalitaire qu'il rejetait par toutes les pores de sa peau. Il s'affirmait, par contre, séduit par les valeurs des États démocratiques. Et c'était un homme qui, à coup sûr, voulait porter des coups très durs au système soviétique, en fournissant à ses adversaires naturels, les démocraties occidentales, des moyens de mieux se défendre contre des agissements qui lui paraissaient extrêmement dangereux.
Autre question. Pourquoi Vetrov a-t-il adressé ses trésors de guerre à la France ? Eh bien parce qu'il est amoureux de Paris et qu'il a un contact à Paris.
La recherche des dernières capitales pour s'offrir à leurs caresses de métal. Quand tu descends du train, tu t'exclames. Tu ne reconnais pas leur visage. Plus loin vers l'est, d'ouest en est, plus loin vers l'est, toujours plus loin sans retour. Comment t'avouer dans un sourire que je suis un espion nostalgique, souvenir d'une mission impossible, un désir d'écouter leur musique. Plus loin vers l'est, d'ouest en est, plus loin vers l'est, toujours plus loin sans retour. fut pris d'une soudaine émotion. Pourquoi parler de ta décision quand il me reste qu'une solution, de partir seul dans cette direction. Plus loin vers l'est, d'ouest en est. Plus loin vers l'est, toujours plus loin, sans retour.
De retour à Moscou, après son expérience canadienne, Vladimir Vetrov est nommé chef adjoint au sein de la direction T du KGB. Les années vont alors passer, Vetrov a une maîtresse au KGB, sa femme le trompe, il boit aussi énormément. Cet homme est à la dérive. Chercherait-il un sens à sa vie? Toujours est-il qu'en novembre 1980, il va reprendre contact avec Jacques Prévost, qu'il présume être un agent de la DST. Il lui envoie une lettre.
Cher Jacques, par l'occasion, j'ai la possibilité de t'envoyer une petite lettre et de te rappeler que nous, ma femme et moi, sommes sains et saufs. Assez souvent, nous nous souvenons notre séjour à Paris et tous nos amis. Je t'en prie, quand tu seras à notre capitale, de trouver un peu de temps et d'essayer de nous donner un coup de téléphone. D'habitude, je suis chez moi à partir de 19h du soir. Numéro de téléphone, tu dois connaître. Je t'embrasse et à bientôt. Cordialement, Vladimir.
L'invitation est lancée. La lettre sera postée en Hongrie grâce à un parent de Vetrov qui vit dans ce pays. À Paris, Jacques Prévost prévient alors le chef de la section soviétique à la DST, Raymond Nart. Dans les semaines qui suivent, Jacques Prévost se rend à Moscou et découvre que son ami, le lieutenant-colonel du KGB Vladimir Vetrov, veut effectivement jouer les informateurs pour les services français. Nous sommes en février 1981. À Moscou, la DST n'a aucun relais russophone pour entrer discrètement en contact avec Vladimir Vetrov, le fameux monsieur Farwell. Aussi, c'est Jacques Prévost lui-même qui va demander l'aide d'un ami sûr, quelqu'un qui travaille chez Thomson CSF à Moscou. Son nom, Xavier Hamel. Le renseignement, il n'y connaît rien et il ne pense rendre qu'un simple service à Jacques Prévost. Il faut savoir que si la DST bénéficie d'un fort réseau sur le territoire français, c'est sa vocation, elle n'est pas censée opérer à l'étranger et joue donc sur les plates-bandes de l'autre organe du renseignement, le SDEC. Et c'est contre toutes les règles élémentaires de l'espionnage que Xavier Hamel retrouve Vladimir Vetrov dans son véhicule. Plus tard, il racontera comment s'est déroulée cette scène.
Je lui ai dit tout de suite, la DST est prête à vous ouvrir les frontières si vous avez des difficultés. Et à ce moment-là, il me dit, mais non, ce que je veux, c'est travailler pendant quelque temps avec la DST. Mais moi, je ne suis pas de la DST. Alors lui, ne me croit pas. Et il me présente un premier papier en français que je parcours. Je lui dis, oh, mais tout ça, je me connais. Vous êtes bien gentil, mais enfin, vous repasserez. Il est très vexé, il m'a dit, mais la prochaine fois, vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes. À la sortie du premier rendez-vous, j'ai cru qu'on entrait dans un roman policier.
Au début, les services français sont persuadés que Farwell veut passer à l'ouest. Mais à leur grande surprise, il n'en est rien, au contraire. Vladimir Vetrov leur révèle d'emblée qu'il ne veut pas quitter son pays, mais lui faire payer ses dérives idéologiques. Mieux encore, il veut travailler pour la DST pendant une période de 3 ans jusqu'à sa retraite. Une décision qui lui coûtera la vie. Parc Borodine, sur un banc, on échange des serviettes, des documents pour le français et des cadeaux pour le soviétique, vodka, liqueur, bijoux. C'est ainsi que sous le nez des badauds et autres promeneurs, les plus grands secrets sur l'architecture du système d'espionnage du KGB passent de main en main. Dans cette histoire, Farwell va prendre tous les risques. Il sort par mallettes entières les documents du KGB. Par la suite, c'est un vrai espion qui succédera à Xavier Amiel, un dénommé Ferrand. Les échanges vont se poursuivre pendant 11 mois. La photocopieuse sera remplacée par un mini-appareil à microfilm provenant de la CIA. Mais un beau jour de février 1982, Farwell ne donne plus signe de vie. 23 février 1982, Farwell n'est pas au rendez-vous de repêchage, comme on dit dans le milieu. Pas de nouvelles, aucune trace. Après quelques mois, plus de doute, Farwell est soit mort, soit emprisonné. La source est grillée. Les Français ne l'apprendront que bien des années plus tard. Farwell est en fait en prison en Sibérie pour la tentative, non pas d'espionnage, mais d'assassinat de sa maîtresse, qui lui faisait du chantage après avoir compris qu'il transmettait des documents secrets du KGB. Lors de cette altercation, il a aussi tué un homme de la milice en civil. « 5 avril 1983, Paris, 10h du matin. Un convoi quitte l'ambassade soviétique boulevard Lannes dans le 16e arrondissement. 47 personnes appartenant à la représentation diplomatique de l'URSS à Paris sont expulsées. Le porte-parole de l'ambassade de l'URSS, Alexandre Adveff, accuse la France de s'en prendre politiquement à la représentation soviétique à Paris.
« L'ambassade proteste vigoureusement contre la décision totalement infondée et arbitraire des autorités françaises. Il ne nous a pas été présenté aucun fait d'activité illégale de la part des collaborateurs soviétiques auxquels il est signifié de quitter la France. Aucune preuve, aucune explication, et ils ne peuvent pas exister car les collaborateurs des représentations soviétiques en France n'exercent et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le cadre normal du développement des relations soviéto-françaises. Aussi, arrivons-nous à la conclusion que l'expulsion sans précédent des collaborateurs soviétiques est liée à des considérations politiques des autorités françaises, sans rapport avec le travail de l'ambassade et d'autres représentations soviétiques en France. Toute la responsabilité des conséquences négatives de cette action arbitraire sur les relations entre la France et l'Union soviétique incombe donc à la partie française.
Cette expulsion est en fait la première réponse de la France dans le sillage de l'opération Farwell. Car 8 des 47 diplomates expulsés faisaient partie de la liste des espions soviétiques remise par Vladimir Vetrov. Cette mesure de rétorsion contre les espions du bloc de l'Est aura une lourde conséquence. Lors de sa rencontre avec le représentant de la délégation soviétique à Paris, le conseiller de Quai d'Orsay présentera des documents directement issus de la source Farwell pour justifier l'expulsion des diplomates. Et selon des sources proches du dossier, c'est ce qui aurait permis au KGB de remonter la piste Farwell jusqu'à la prison sibérienne de Vladimir Vetrov. Fin de l'histoire. En décembre 1984, le KGB fait rapatrier Vetrov manu militari à l'Efovtorvo, la prison de haute sécurité du KGB. Il sera par la suite jugé coupable de haute trahison et fusillé. Nous sommes le 23 janvier 1985. Vladimir Vetrov, alias Farwell, meurt à l'âge de 52 ans. Avec Farwell, les Américains et le bloc de l'Ouest ont enfin la carte qu'il leur manquait pour frapper un grand coup dans les entrailles de l'ours soviétique. Les Polonais de Solidarnosc, Jean-Paul de lui-même, Ronald Reagan et son grand bluff de la guerre des étoiles, et bien sûr, Mikhail Gorbatchev parachèveront l'œuvre. 4 ans seulement après la mort de Vladimir Vetrov, le mur de Berlin tombera, mettant fin au monde bipolaire, un monde où les espions étaient rois.
Bon, les aides de Russie, de vodka je t'écris, ces mots transis, ces mots d'ici, Ivanovna. Je n'ai que toi. See you.
glacé, secret, sucré, cet espionnant jet. Secret glacé, secret, sucré, sous-marin soviet. Secret glacé, secret, sucré, d'un baiser codé. Top secret, bon baiser.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Farwell, notre invité Jacky Debin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été pendant 9 ans sous-directeur du contre-espionnage à la DST, vous avez été avec Raymond Nart, les architectes et les contrôleurs de l'affaire Farwell, et vous avez écrit tous les deux un livre intitulé L'affaire Farwell, vue de l'intérieur aux éditions Nouveau Monde. Alors, est-ce que cette affaire Farwell est, comme on l'a affirmé ici, comme beaucoup l'affirment, à votre avis, l'affaire d'espionnage la plus retentissante de cette période qu'on appelle la guerre froide?
Oui, je pense effectivement que c'est l'affaire majeure de cette époque, dans la mesure où elle nous a permis de recueillir des tas de renseignements sur l'espionnage soviétique, mais également sur l'organisation, c'est peut-être encore plus important, sur l'organisation de l'espionnage soviétique avec la VPK. Effectivement, nous avons découvert que l'espionnage soviétique, ça n'était pas seulement le KGB et son petit frère militaire, le GRU, mais que c'était tout un ensemble d'organismes de l'Union soviétique. Et c'était un petit peu logique, c'était un régime totalitaire et tous les organismes de l'État étaient obligés de se plier au désiderata du KGB.
Bien sûr. Et vous, en tant qu'espion, plutôt que maître contre-espionnage,
oui,
est-ce que vous vous êtes dit, allez, très franchement entre nous, ils sont forts quand même, ou pas? Au contraire, ils sont pas forts, parce qu'ils étaient forts, on n'aurait pas découvert tout ça.
Non, je pense qu'on n'avait pas, on n'avait effectivement pas d'illusion sur la capacité du KGB et du GRU à mener des opérations d'espionnage à l'étranger. Absolument pas. Les Américains, peut-être plus que nous, puisque il ne faut pas oublier que 74% de ce qui avait été pillé à l'Ouest c'était des produits américains.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensuite avec les Américains sur l'exploitation de ces documents.
Bien sûr.
La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne représentait à peu près 8% de l'ensemble de l'espionnage soviétique à l'époque. Et ce qui a pu faire dire par la suite à des gens mal intentionnés que c'était une affaire en fait américaine, que la France, petit pays, la DST, petit service, n'était pas capable de mener une telle opération à Moscou.
Bon, en tout cas, et comme l'a dit à l'époque Raymond Nart, qui est co-auteur de ce livre avec vous, il a dit que c'était quand même inespéré pour la DST quand même, cette affaire-là. Quand vous l'avez reçu, est-ce que vous l'avez reçu comme quelque chose d'effectivement d'inespéré?
Ah oui, effectivement.
Ah, on est bien d'accord quand même.
Oui, je me souviens, c'est moi qui ai reçu les premiers documents. Raymond Nart était grippé, il était chez lui. Bon, je l'ai appelé tout de suite et je lui ai dit, tiens, toi bien. Il est revenu immédiatement et sans bien parler russe, on voyait très bien que ces documents étaient des documents secrets et qu'ils portaient sur des, disons, sur des fournitures qui étaient extrêmement sensibles. Et puis en plus, nous avions le plan de recherche sur 2 ans, puisque l'espionnage, ce ne sont pas des gens qui se promènent dans la nature un petit peu au hasard. Ils ont des...
J'imagine.
Ils ont des consignes très très précises qui figurent dans un plan de recherche. Plan de recherche qui nécessite d'ailleurs déjà des opérations d'espionnage pour savoir à quel endroit on doit chercher tel ou tel produit et quelle est la personne que l'on doit contacter. Et ensuite, les résultats de l'espionnage, donc je dirais l'exécution de ces plans de recherche.
Vous êtes donc dit, quand vous avez découvert ça, que c'est formidable de pouvoir avoir le témoignage de l'intérieur. C'est pour ça que votre livre est passionnant et l'interview aussi, j'espère. Vous êtes dit, mais c'est de la bombe, c'est un énorme truc. Tout de suite, vous avez compris tout de suite que c'était énorme.
Ah oui, absolument. Lorsque nous sommes allés voir Marcel Chalet,
directeur
patron, avec Raymond Nart, Raymond Nart lui a dit, sur le bureau du directeur de la DST, aujourd'hui je dépose des documents qui viennent du cœur du KGB. Et Marcel Chalet a dit tout de suite, il n'a pas mis en doute ce que nous lui disions. Et il a pensé tout de suite à la suite de l'histoire. Il nous a dit, oui, c'est une affaire importante, peut-être pas aussi importante que l'affaire Penkovsky, mais c'est une affaire très importante. Et j'ai immédiatement pensé qu'il avait tort.
Que c'était
une affaire beaucoup plus importante que l'affaire Penkovsky. Penkovsky était un officier de GRU, du service militaire, et donc qui avait passé des documents à l'Ouest, alors que là, il s'agissait de documents qui venaient du KGB. Le KGB qui, non, en dehors de ses propres opérations, était chargé de rassembler le produit de l'espionnage des différents organismes soviétiques, mais également des pays frères,
oui,
des pays du pacte de Varsovie. Donc, tout se concentrait au KGB.
Alors, dans cette affaire, les Français ont toujours affirmé n'avoir rien payé à Vetrov, juste quelques cadeaux. Est-ce que c'est vrai?
Ah oui, absolument. Non, il n'a pas du tout travaillé pour l'argent. Quelques cadeaux, c'est lui qui nous demandait, par exemple, un magnétophone pour son fils, un manteau pour sa maîtresse. Enfin, on était d'ailleurs... On était un petit peu partagé parce que ça pouvait révéler ses contacts avec l'Ouest. Mais comme à Paris, il avait un petit peu trafiqué quand on avait besoin de quelque chose à l'ambassade, on s'adressait à Vladimir. Donc finalement, ça pouvait quand même passer. Non, il n'a absolument pas travaillé pour de l'argent. Deux choses. Il n'a pas travaillé pour de l'argent et il n'a jamais voulu quitter l'Union soviétique.
Quelle analyse vous en faites? Alors, c'est probablement intime, ça lui appartient, mais des vraies raisons pour lesquelles il a trahi son pays. Est-ce que sa francophilie, est-ce que son passage à Paris pourrait expliquer cet amour de ce pays, la France? Mais c'est peut-être pas suffisant quand même.
Non, il avait un contact à Paris et puis il nous a dit tout de suite, je me suis adressé à la DST parce que la DST n'est pas pénétrée.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il n'avait pas...
Ah, je comprends ce qu'il veut dire, mais pourquoi il dit ça?
Il nous dit ça tout simplement pour expliquer pourquoi il s'est adressé à la DST.
Ouais, d'accord.
Et puis enfin, c'est une question qu'on lui avait posée aussi, parce qu'il avait été en poste à Paris, donc c'était intéressant de le savoir.
Bon, alors est-ce que la deuxième motivation correspond bien à celle qu'on a exposée dans le récit? C'est-à-dire qu'en fait, c'était un type qui considérait que le KGB n'avait pas reconnu ses capacités, quoi, qu'il était maltraité en gros, et qu'il leur en voulait.
Oui, absolument. Je ne le vois pas à l'origine hostile au régime,
ouais,
lui-même.
Ouais.
Il était hostile
à la façon dont on le traitait, ouais,
dont on le traitait, et dont ça allait beaucoup plus loin, à la décadence du régime.
Ouais.
Et cette décadence était déjà très sensible au sein du KGB. Le KGB, c'était le fleuron de l'Union soviétique. Ça servait à tout, le KGB. C'était les affaires étrangères, c'était l'ENA, c'était également la recherche scientifique. Enfin, c'était absolument capital. Et voir dans quel état de décrépitude était le KGB, c'est quelque chose qui lui faisait mal. D'ailleurs, il avait écrit un mémorandum pour expliquer ce qu'il voyait, ce qu'il n'allait pas, etc., etc. On l'avait bien sûr mis tout de suite dans un tiroir.
Bon, alors, on le dit beaucoup, cette affaire Farwell a été du pain bénit pour François Mitterrand, pour se rapprocher des Américains. On dit beaucoup que lorsque François Mitterrand a donné toutes ses informations à Ronald Reagan, au sommet d'Ottawa, Reagan l'a cru tout de suite. Apparemment, non, Reagan est resté méfiant, il a fallu que la CIA lui dise « Oui, ce que les Français nous ont transmis, c'est du lourd, c'est bien. »
Oui, depuis, par la suite, les Américains nous ont même dit que Reagan n'avait rien compris. Bon,
il n'avait pas saisi l'importance du truc, quoi.
Non, mais il avait Bush.
Oui. Qui lui. George, qui était vice-président, qui deviendra président après.
Oui, d'accord. Qui avait passé, je crois, un an à la CIA, qui connaissait bien les problèmes.
Oui, qui avait été directeur de la CIA.
Bush a bondi immédiatement lorsque Marcel Chalet est allé le voir avec les documents et. Il a envoyé plusieurs hélicoptères pour aller chercher certains de ses collaborateurs. Enfin, les directeurs des autres services de renseignement américains, parce qu'ils ont aussi plusieurs services de renseignement, bien sûr.
Bon. Alors, vous avez vu, vous, François Mitterrand, vous êtes allé dans son bureau pour lui parler de cette affaire-là.
Oui, alors, par la suite, pour rendre compte.
Ouais. Bon, comment vous avez senti le président de la République, le président Mitterrand, par rapport à cette affaire-là? Vous sentiez que c'était important pour lui? Comment il en parlait? Comment ça se passait?
C'était un personnage assez secret. Qui était toujours, je pense, un peu méfiant vis-à-vis des services de renseignement. Il lui arrivait, par exemple, quand il avait besoin de renseignements venant de la DST, de contacter un de ses amis et de lui dire « va demander à la DST ce qu'ils en pensent ». Donc, c'est assez difficile de définir son attitude, mais il est sûr que cette affaire, pour lui, a été une bénédiction du septennat. Hein.
Bien sûr. Et Vetrov, quel bonhomme c'était ?
Alors, Vetrov, moi je m'en fais une idée à travers les personnes qui l'ont côtoyé, notamment...
Vous l'avez jamais côtoyé directement ?
Non. Mm-hmm. Non, moi j'étais pas encore à la DST quand il était en poste à Paris. Non, et notamment à travers Patrick Ferrand, donc, était son officier traitant, qui était très attaché à... Il disait c'est un personnage très attachant. Alors... Effectivement, Vetrov, c'est quelqu'un qui a perçu la décrépitude, la décadence de l'Union soviétique. Et ça dépassait très largement le KGB. Et donc, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui était effectivement vexé. Vexé, non, enfin, peut-être du sort qui lui avait été réservé au sein du KGB, mais surtout parce qu'on ne l'écoutait pas.
Ah, voilà.
Lorsqu'il disait, voilà, ça va mal, le népotisme, l'alcoolisme, etc., il était bien placé pour en passer parce que
on lui envoyait pas d'argent,
mais on lui envoyait des bouteilles de cognac. C'était lui qui nous demandait du cognac en disant, bon, je vais aller faire boire, ils vont me raconter des choses. Donc, voilà comment ça se passait. Et puis, c'était quelqu'un qui était, je dirais, excessif.
Et dans quel sens ?
S'il n'avait pas été excessif, je pense que, ça n'aurait pas été Farwell. Hein. Excessif en ce sens qu'il a pris des risques.
Oui, c'est moi qu'on puisse dire.
Oui.
Il a payé de sa vie.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez me parler quand même du travail de M. Ferrand? Parce que c'est important quand même.
Ah ben absolument. Ah. Ferrand n'était pas... On dit dans le reportage que c'était un espion. Non, pas du tout. Non, c'était un militaire, simplement. Que Raymond Nart avait rencontré et qui lui a fait vraiment une excellente impression. En plus, il connaissait le russe, il était en poste là-bas. Marcel Chanet nous avait dit, il faut recruter quelqu'un au Quai d'Orsay. Bon, Raymond Nart a dit, moi j'ai quelqu'un que je connais là-bas. Et lorsque c'était l'amiral Lacaze, lorsqu'on en a parlé à l'amiral Lacaze, qui était chef d'état-major des armées, il nous a dit, mais vous avez vu, qui c'est Ferrand? Pour passer inaperçu, il y a mieux. 1m90, enfin, bon, et puis militaire. Il a été absolument remarquable.
Parfait. Il a fait des risques, n'empêche.
Effectivement, il a pris des risques. Alors, son rôle, il faut bien préciser son rôle, finalement, ça a été de parler avec Farwell. Farwell ne lui remettait pas de documents.
Oui, d'accord, il n'a pas transporté de documents.
Non. De parler avec lui, Farwell voulait entendre le parler français.
Ouais.
Et il voulait discuter avec quelqu'un de l'Ouest. Et en fait, les documents passaient par l'épouse de Patrick Ferrand, qui était extrêmement courageuse et efficace.
Grand rôle qu'on ne voit pas tellement dans le film, d'ailleurs. Le film Farwell, qui est bien, hein, mais...
Le film Écarion, non,
qui est bien,
non.
Mais on ne voit pas beaucoup, pas tellement son rôle, quand même.
Oui, 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 je lui ai reproché, d'ailleurs. Je lui ai dit, écoutez, vous aviez une héroïne, une véritable héroïne, alors pourquoi ne pas l'avoir mise plus que ça en lumière? Bon.
Alors, toute dernière chose sur Farwell, après on parlera de la Russie d'aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, vous, le service de contre-espionnage, enfin, les Français, de l'avoir laissé tomber?
Farwell?
Ouais.
Que voulez-vous faire? Si on s'occupait de lui, c'était la preuve que... On était en contact avec lui. Et puis, que faire? La seule chose qu'on aurait pu faire avant, c'est l'exfiltrer, le faire sortir.
Oui.
Mais là, c'était fini. Et puis, quand je parlais de caractère tout à l'heure excessif, il y a effectivement les relations avec sa maîtresse, ce qu'on ne sait pas encore très exactement, c'est le rôle exact qu'elle a joué, mais elle était au courant de sa trahison.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a voulu le faire chanter.
Oui.
Bon, aujourd'hui encore, la guerre secrète, on va dire ça comme ça, continue avec les Russes de Monsieur Poutine. On va écouter cette archive sur cette dernière tentative d'assassinat de l'ancien espion et agent double Sergueï Skripal et de sa fille Yulia. C'était le 4 mars de cette année, c'était dans la petite ville de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.
Et à la une de la presse britannique, le visage de deux hommes présentés par Scotland Yard comme les auteurs de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal.
Les assassins souriants de Poutine accusent ce matin The Daily Mail avec une image qui est extraite d'une vidéo de surveillance montrant effectivement deux hommes. Ils auraient été filmés à Salisbury le 4 mars dernier, c'est-à-dire dans la ville et le jour même où Sergueï Skripal et sa fille Yulia ont été empoisonnés au Novichok. D'après Scotland Yard, ces deux hommes seraient deux ressortissants russes. Londres les accuse d'appartenir à l'agence de renseignement militaire russe, le GRU. D'après The Guardian, Theresa May parle d'une opération qui aurait été télécommandée, selon elle, par le Kremlin. Et selon The Times, la première ministre britannique promet désormais de se venger de la Russie et aurait ordonné notamment une cyberguerre contre les réseaux informatiques militaires russes.
Jackie Demain, on a passé une archive sur les Russes et leur FSB, GRU. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les services secrets russes sont redoutables, parmi les plus redoutables, peut-être les plus redoutables en ce moment?
Oui, on se croirait revenu au temps de la guerre froide avec le SMERSH qui était chargé, mort aux espions, qui était chargé d'exécuter les traîtres.
Ouais.
Et on note effectivement que c'est le GRU, c'est pas le KGB qui est dans cette affaire, c'est-à-dire le service militaire. Moi, je me suis interrogé au début sur, disons, les avantages que ces affaires pouvaient avoir pour Vladimir Poutine. Et on m'a convaincu qu'effectivement, c'était des affaires qui étaient des affaires absolument exemplaires. Poutine ne tolérait aucune trahison dans ses services. L'ancien colonel, lieutenant-colonel du KGB a encore de bons souvenirs.
Alors en France, je voudrais en profiter pour rappeler aux auditeurs, parce qu'on peut s'y perdre, l'organisation des services de renseignement français aujourd'hui. Alors on a deux grandes branches. On amène une troisième avec le ministère des Finances, mais on va s'intéresser aux deux grandes branches, armée et intérieure. Hein. Donc, sous la tutelle du ministère des Armées, vous avez la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, très connue, chargée de l'espionnage et du contre-espionnage à l'extérieur du territoire national. Et puis vous avez la Direction du Renseignement Militaire, chargée du renseignement tactique et stratégique sur les théâtres et futurs théâtres d'opération de l'armée. Et puis sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, nous avons aujourd'hui la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, chargée du contre-espionnage et de la lutte antiterroriste, et puis le Service Central du Renseignement Territorial, le SCRT. Est-ce que, selon vous, la plus grande réforme des services de renseignement français, c'était la disparition des RG? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Est-ce que ça a vraiment remis en cause l'architecture de nos services de renseignement?
Non, moi je pense qu'effectivement, les RG, on est en train de les reconstituer avec la police territoriale à l'heure actuelle.
Finalement, c'est... Oui.
Alors les RG, pour nous, c'était un service qu'on appréciait beaucoup parce que ils étaient chargés du renseignement économique, social, à l'intérieur. Toute mission que dans différents pays, je pense au Canada, je pense à l'Allemagne par exemple, on risque de confier au service de contre-espionnage, alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc l'existence des RG pour nous était une bénédiction, ça nous permettait d'être déchargés, disons, de cette tentative de nous instrumentaliser sur le territoire national. Pour le reste, rien n'a changé, la DGSI est compétente sur le territoire français, et la DGSE à l'extérieur. Bon, ceci étant, avec un bémol quand même, parce que la DGSI ne pourrait pas opérer sur le territoire français sans avoir des éclairages à l'étranger. Et ça, c'est le rôle des liaisons avec les services homologues.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jacques Debin. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire Farwell, bien sûr, mais ce qui est important, c'est Vu de l'intérieur. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Farwell donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Clément Vuille qui était à la technique aujourd'hui.